La revue de presse. Bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour.
Claude, ce matin, on parle d'un couteau
qui glisse sur de la viande congelée et entaille profondément entre le pouce et l'index la main d'un homme de 51 ans. Nous sommes le 13 décembre dernier à Lanfrain, Côte d'Armor. L'homme ne panique pas. Une heure après s'être blessé, 20h36, il appelle les pompiers. Il dit qu'il n'arrive pas à stopper l'hémorragie, que le sang sort en jet, mais pas besoin de SAMU, juste des points de suture. Alors les pompiers lui envoient une ambulance privée, mais elle ne va arriver que 2h30 plus tard, et cette nuit, l'homme mourra de son hémorragie. Et le télégramme ce matin nous raconte un engrenage largement inconnu 9 mois après le drame. Vous lirez comment l'ambulance fut déroutée pour une intervention jugée plus urgente. Vous lirez comment une caserne de pompiers à 10 minutes du blessé ne fut pas alertée. Vous lirez pourtant comment l'homme s'inquiéta et avec un voisin qui le soutenait, il rappela le 18 à 21h10, 21h30, 22h37, 23h09. Il se plaignit alors d'une douleur insupportable dans la poitrine. Quand enfin l'ambulance arriva, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Le défibrillateur des ambulanciers ne fonctionnait pas. À minuit passé, une équipe médicale n'aurait plus qu'un décès à constater. Et nous restons, ayant lu le télégramme, avec un sentiment d'impuissance. À quoi bon toutes nos protections ? Dans le Maine Libre, on nous parle de deux fillettes au Mans, 5 ans et 6 ans, qui depuis le 13 septembre ne sont pas retournées à l'école. Au bout d'une semaine, quand même, l'école s'inquiète. Le 20 septembre, un directeur appelle le commissariat. Des policiers viennent toquer à l'appartement 232 du 8 de la rue Lagrange, où les gamines vivent avec leur maman. Pas de réponse, ils s'en vont. 9 jours plus tard, le 29 septembre, d'autres policiers, cette fois de la brigade des mineurs, décident d'insister. Après plusieurs dizaines de minutes, les fillettes ouvrent la porte. La maman est morte depuis plusieurs jours, de cause naturelle, lige. Les voisins ont un peu honte, mais enfin, la morte était discrète. On ne savait pas, on se connaît si peu. Les fillettes vont bien. De quoi nous plaignons-nous ?
On parle aussi d'un journaliste.
Un bel homme, que vous allez voir, appareil photo à l'œil, à la une de Libération. On parle aussi de lui sur les sites du Point et du Monde, et on ne sait pas s'il va bien. Cela fait 6 mois qu'Olivier Dubois a été enlevé à Gao, au Mali, où dans le chaos, dit Libération, se promènent des bandes armées. Nous crions son nom aujourd'hui en France pour qu'il reste présent. Je me suis conditionné pour ne douter ni de lui ni de sa résilience, dit au Point sa compagne et mère de son fils, Déborah. Je n'ai pas d'autre choix que d'être confiante. Elle croise dans Bamako des lecteurs qui admirent Olivier. Elle dit à leur petit garçon, me dit Le Monde, que son papa est un super-héros. Elle a raison. Après cela, que valent nos futilités ? Le Figaro, souvent superbe et passionnant, s'oublie un peu ce matin dans l'idéologie, ça n'empêche pas le talent. Ainsi, le journal nous raconte des espions français de la Deuxième Guerre mondiale, dont nous célébrons aujourd'hui près d'Agen l'engagement, car après la défaite de 1940, ils firent le serment de poursuivre le combat et furent les yeux des gaullistes. Mais l'article du Figaro commence façon tract. Au moment même où les adeptes de la culture woke essayent de déconstruire la mémoire en déboulonnant les statues, au mépris de l'histoire, les espions se souviennent. Nous dirons que c'est une cohérence. Le Figaro nous alerte aussi sur 2 pages contre la féminisation de l'espace public et s'offusque que dans des écoles on réaménage les cours de récré pour que le football des petits gars ne colonise pas tout l'espace. S'offusque aussi le Figaro parce que place du Panthéon à Paris, on a installé des bancs qui portent le nom de femmes oubliées par l'histoire. L'un de ces bancs, en photo dans le journal, est gravé du nom de Hildegard von Bingen, religieuse mystique du XIIe siècle que Benoît XVI canonisa. En 2007, bonheur des archives web, le Figaro célébrait la voix pure, céleste mais charnelle de Hildegard, dont on disait alors des textes dans un théâtre parisien, accompagné de tambours, d'oudes, d'arboukas et même de bols tibétains. Le Figaro d'aujourd'hui aimerait-il encore cet alliage transculturel ? Le même Figaro, enfin, commence un bon article qui compare Donald Trump à Éric Zemmour par cette facilité. Il n'y a pas plus français qu'Éric Zemmour et pas plus américain que Donald Trump. On pourra, à contrario, suggérer que les adversaires de ces deux hommes incarnent la quintessence de leur pays. Tiens, dans la montagne, je lis qu'un musée consacré à l'esclavage dans l'Alabama abrite 5 sculptures de Sandrine Plante, artiste du Puy de Dôme, qui, à travers son œuvre, commémore un crime ancien. Il est beaucoup de manières d'être de France et d'Amérique à la fois. Les Échos Week-end nous invitent à l'enfer et au-delà, mais quel délice que la divine comédie de Dante, que la Pléiade republie et dont le journal, donc Les Échos, nous retrace la saga savourée. Vous lirez qu'au champ 28 de l'enfer, Dante décrit cruellement une ombre, ouverte du menton jusqu'au trou qui pète, ses boyaux pendaient entre ses jambes, on voyait ses poumons. L'ombre suppliciée, celle de Mahomet, que Dante imagine aux enfers avec quelques papes, mais aux Pays-Bas, une édition a expurgé pudiquement le texte du nom du prophète. Parfois, le progressisme n'est pas malin. J'en termine. De la victoire de la France hier contre la Belgique, c'est du football. L'équipe sort un titre référencé, le seum deux fois. Les Belges ne se vexent pas. Et la Libre Belgique, à propos de Zemmour et de Napoléon, dit de nous ceci dans un papier politique. En France, même les despotismes se veulent républicains. C'est du Raymond Aron. Cette fois, c'est nous qui avons le seum d'être si bien dévoilés.
Claude Askolovitch pour cette revue de presse. France Inter.